on va commencer. Je vous remercie d'être venus nombreux écouter cette discussion, cette rencontre autour de l'ouvrage À la table des diplomates qui retrace environ 5 siècles d'histoire à travers des repas d'État, des grandes réceptions, des rencontres officielles. Et pour présenter cet ouvrage, on a la chance d'avoir avec nous Monsieur Laurent Stefanini, qui est ambassadeur délégué permanent auprès de l'UNESCO et qui a assuré pendant à peu près 6 ou 7 ans, de 2010 à 2016, la fonction de chef du protocole de la République sous les présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande, donc qui est peut-être le mieux placé, en tout cas, pour nous parler de ces réceptions. Alors, à la table des diplomates, déjà rien que le titre fait envie, et vous allez nous présenter un petit peu cet ouvrage. C'est un livre qui est richement illustré, richement documenté, une vingtaine d'auteurs, des historiens, des professionnels de la table, également des chefs, et finalement qui peut parler à tout le monde, et même aux profanes, si je puis dire, qui ont pour habitude de considérer le diplomate et l'ambassadeur comme de savoureux desserts au Grand Marnier. Et cette fois-ci, avec ce livre, les ambassadeurs et diplomates ne sont pas sur la table, mais à la table. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'ouvrage, sa genèse et la manière dont il a été conçu ?
Merci beaucoup. C'est en effet un ouvrage qui a été voulu par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international. C'est au départ une commande du ministre de l'époque, Laurent Fabius, qui a voulu toujours, pendant les quelques années où il a été en charge de ce secteur d'activité publique, mettre en avant la table française et la gastronomie française par différentes initiatives. Il a également beaucoup travaillé sur les questions de tourisme pour, je dirais, mettre en valeur, soutenir ce qui est un des éléments de l'attractivité française. Et il a souhaité, et avec lui ensuite la direction des archives du Quai d'Orsay, d'où viennent bon nombre de documents, il a souhaité que soit écrit un livre montrant ce que la gastronomie française a apporté à l'histoire de France, c'est-à-dire à la France, mais aussi aux Français en termes politiques. D'où ce livre, qui est un livre collectif. Hein, j'en suis le coordonnateur, le directeur, mais je ne suis pas le seul auteur. Vous avez quand même, ce qui est un record, 42 auteurs de différents chapitres dans ce livre. Vous avez 20 auteurs qui sont des historiens ou des personnalités politiques, historiens connus. Vous avez Hélène Carrère-Dancausse, vous avez Hubert Védry. Et puis l'autre moitié, ce sont des chefs qui sont souvent des chefs étoilés et qui non seulement réinterprètent les menus du passé, mais proposent une recette. C'est-à-dire que vous avez aussi 22 recettes, puisque vous avez 22 grands moments de l'histoire de France. Nous commençons, comme vous l'avez dit, il y a 5 siècles. Nous commençons en 1520. Avec l'entrevue du camp du Drap d'Or entre François Ier et Henri VIII. Donc ça aussi, un avantage, c'est que ça permet d'avoir une histoire de France sur 5 siècles, mais ça permet aussi d'avoir une histoire de la gastronomie française sur 5 siècles, parce qu'il est clair qu'on ne propose pas la même chose en 1520 et en 2015. Voilà. Donc, c'est un ouvrage collectif. J'ai coutume de dire que c'est à la fois un livre d'histoire, parce que c'est vrai que c'est un livre d'histoire de France, avec les grandes étapes. On voit d'ailleurs, quand on le lit, que la France est un combat, qu'il a fallu à la fois se battre et puis séduire nos voisins européens et puis du Nouveau Monde. Hubert Védry a écrit le chapitre sur la visite de François Mitterrand en 1983 à Pékin. Ce n'était pas la première visite visite en Chine d'un chef d'État français, mais le premier avait été 10 ans avant Georges Pompidou, mais enfin, c'était quand même pas très fréquent à l'époque. Vous voyez que nous sommes dans une négociation permanente avec notre environnement. Donc c'est un livre d'histoire. C'est un livre d'images parce que vous avez beaucoup d'images. Puis vous avez une collection de menus qui a constitué en quelque sorte la base, tout au moins pour la partie 19e, 20e siècle. Collection de menus que vous pouvez voir en vrai puisqu'ils sont actuellement chez vous, Caroline, donc au Musée des Arts Décoratifs, puisque vous avez donc cette exposition sur les menus, pas seulement d'ailleurs des menus historiques. C'est une très belle exposition en ce moment, jusqu'à la fin du mois de février. Mais alors, beaucoup de ces menus, d'ailleurs, que vous verrez dans les vitrines du Musée des Arts Décoratifs, sont dans ce livre illustré. C'est la collection de Jean-Maurice Sacré. Mais vous avez aussi des photographies, des images, qui font que c'est effectivement assez agréable à feuilleter. Alors, ce n'est pas pour que vous ne lisiez pas les textes, hein, parce que j'ai fait quand même 3 chapitres. Donc, je vous recommande aussi de lire les chapitres de lire les historiens. Vous avez Maurice Weiss, vous avez Jean-Pierre Babelon, qui a été le directeur général de Versailles sur la partie 18e siècle. Et puis vous avez d'ailleurs 4 parties, et à la tête de chaque partie, vous avez un auteur qui, en quelque sorte, fait la synthèse. Donc, et puis alors enfin, vous avez la gastronomie, comme je dis, et ça c'est très important aussi. Vous avez donc ces recettes, cette histoire de la cuisine, cette histoire des arts de la table. Donc c'est un ouvrage complexe, c'est un ouvrage multiple, mais qui a beaucoup amusé les différents auteurs à faire. Moi je le trouve, mais je suis mal placé évidemment pour en parler, mais que je trouve au fond intéressant. C'est intéressant de voir qu'il a sa vie propre, au-delà de la collection des 44 auteurs qui y ont contribué par leur science.
Oui, effectivement, vous le disiez, ce qui nous rapproche finalement et ce pourquoi on est tous les deux à cette rencontre, ce sont les menus de Jean-Maurice Sacré. Et finalement, on a presque poursuivi un même but dans l'exposition et dans cet ouvrage, c'est effectivement illustrer l'évolution. Une évolution des goûts, une évolution des manières de recevoir. Vous le disiez, on ne reçoit pas ou on ne propose pas les mêmes choses en 1520 et en 2015. Alors, s'il y a une constante, c'est que la France rayonne avec sa gastronomie, avec sa cuisine, avec son art de recevoir. Qu'est-ce que l'on peut évoquer comme fait un petit peu marquant qui montre que des évolutions dans la manière de recevoir un chef d'État, dans la durée des repas, dans les produits que l'on va solliciter?
Alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir quand même qu'en 5 siècles, ça bouge, que vous avez un côté encore un petit peu médiéval au début du XVIe siècle, et que surtout, ce sont 2 cours qui se rencontrent. C'est-à-dire que ça n'est pas seulement une personnalité qui en rencontre une autre, mais que il faut faire de la masse, c'est-à-dire que c'est des centaines voire des milliers de personnes qui se retrouvent dans un camp temporaire, et ça marche aussi d'ailleurs pour par exemple l'entrevue le traité des Pyrénées en 1659 et le mariage de Marie-Thérèse avec Louis XIV, c'est-à-dire que vous avez 2 systèmes politique qui se retrouvent et qui se rapprochent. Il fallait assurer sur plusieurs jours la quantité. C'est pour ça que nous commençons au camp du drap d'or, parce que le camp du drap d'or, on n'a pas les menus, évidemment, comme on peut les connaître au XXe siècle, mais on a les livres de comptes. Et ils ont été très, très bien étudiés et permettent de voir exactement ce qu'on servait. Alors, on servait de la viande, du poisson, parce que comme en plus, c'était à côté de Calais, la mer n'était pas loin. Et puis, vous voyez l'évolution. Je dirais que l'évolution, c'est vers le raffinement. C'est-à-dire que on est moins dans la quantité à préparer rapidement, et on est plus dans la gastronomie et puis aussi dans une forme d'esthétique. C'est-à-dire qu'il y a dans le service Alors non seulement dans la vaisselle, dans la porcelaine, dans les cristaux de baccarat ou d'ailleurs dans les vermeils, dans le service qui se sophistique en quelque sorte, qui devient un service à la personne sur des plats qui peut se servir individuellement. Donc il y a toute une mise en scène, et c'est pour ça aussi, on en revient au menu proprement dit, c'est-à-dire à ces objets, à ces petits carnets que l'on a sur la table, qui sont à une époque de vraies œuvres d'art. On fait pour les repas de la fin du 19e siècle des menus ad hoc qui sont quelquefois aquarellés et dont les plus grands graveurs, les plus grands concepteurs conçoivent les maquettes. Vous avez ça marche comme ça, je dirais, jusque à la fin des années 60, début des années 70. Vous avez en particulier reproduit pas mal de menus de De Caris, qui était un graveur assez connu dans les années 50 et 60, façon un peu comment s'appelait ce peintre en noir et blanc, brusquement son nom m'échappe. Non, c'est pas Soulages, c'est Buffet. Ah oui, voilà, Bernard Buffet. Et donc vous avez, on le fait moins maintenant, c'est-à-dire que maintenant on utilise des techniques de composition un petit peu plus contemporaines, c'est plus facile. Et on fait aussi souvent des reproductions de menus anciens. Quand j'étais chef du protocole, j'ai eu le souci que pour la première visite en France, peu de temps après son installation du roi d'Espagne, Philippe VI, ou pour la visite de la reine d'Angleterre, sixième visite d'État en France en 2014 pour les commémorations du 6 juin, on reprenne des menus anciens qu'on puisse reproduire. Voilà. Donc on a. Et alors le menu, ça a évolué aussi parce que au 19e siècle, c'est un élément qui vous inspire dans vos choix. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. C'est que quand on voit des menus de repas de la fin du 19e siècle où vous avez 19 plats, tout était effectivement présenté, mais on ne mangeait pas de tout. C'est-à-dire que le menu, on choisissait plutôt l'écaille ou plutôt le saumon ou la poularde. Voilà, il y avait trois ou quatre services définis, mais qui étaient autour d'une entrée, d'un entremets, d'un plat principal, souvent rôti, et puis d'un dessert. Mais on ne mangeait pas tout, donc il y avait plusieurs choses qui étaient proposées. Donc c'était vraiment un menu destiné à aider au choix des convives. Aujourd'hui, à la fin du XXe siècle, c'est plus le menu souvenir, c'est-à-dire que c'est destiné à garder une trace du moment, mais on ne choisit pas ce que l'on mange.
Non, on ne choisit pas, effectivement, plusieurs ou parfois dizaines de plats qui sont proposés. Donc, ce qui sous-entend aussi une gestion en amont dans la préparation de ces réceptions. Alors, c'est vrai qu'on a coutume de dire pour qu'un repas soit réussi, il faut être pas moins que les grâces, mais pas plus que les muses. Donc, on est entre 3 et 9. Alors, dans l'avant-propos de l'ouvrage, vous évoquez des repas qui peuvent aller de 20 à 250 convives. Alors, comment s'organise effectivement un grand dîner officiel, un grand dîner d'État, comme par exemple la COP21 qui est évoquée, où 157 chefs d'État se rejoignent le même jour, au même moment. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est assez, quand même assez surprenant.
Alors, le repas n'est qu'un élément du programme. Il faut bien voir que lorsque vous avez une visite ou lorsque vous avez un sommet, vous avez un ensemble de moments, de temps forts. Le repas ou les repas sont seulement un des éléments. Il faut voir que, d'ailleurs, on est de plus en plus... Enfin, il y a un repas éventuellement deux, mais de plus en plus utilitaristes en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on réduit ces moments de sociabilité que sont les repas. Alors le repas proprement dit, ensuite ça permet de présenter classiquement le dîner d'État, par exemple, ça permet d'inviter, on peut inviter jusqu'à 250 personnes. On a quelquefois invité plus, mais ça n'a pas toujours été réussi. Je pense en particulier à la visite d'un président chinois où on a été jusqu'à plus de 300 personnes invitées à l'Élysée. C'est trop. C'est trop parce que les gens sont serrés. Puis c'est très difficile en cuisine ensuite d'assurer une prestation égale à la bonne température pour autant de personnes. Donc on choisit, donc c'est bien de se fixer pour les grands repas, 200-250 personnes, il est clair que sont invités non seulement les corps constitués, mais également des chefs d'entreprise, des personnalités du monde du spectacle, du monde du sport aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'on diversifie de plus en plus. Si vous regardez d'ailleurs la liste des invités à un dîner d'État sous le général de Gaulle, comme vous pouvez en voir au musée, et ce que nous faisons et ce qui nous invitons aujourd'hui, c'est quand même un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on invite beaucoup plus ce qu'on appelle la société civile. La tenue également a changé, puisque pour les grands dîners, on était en habit, comme on l'est encore d'ailleurs dans un certain nombre de monarchies, alors que maintenant, depuis 1974, on n'est plus en habit, on est en smoking, et depuis Nicolas Sarkozy, on est même en costume de ville sombre. Donc ça, je dirais que c'est pourquoi, parce que ça évite d'avoir à retourner, changer, ou bon, bref. On peut le critiquer parce que évidemment l'habit, ça solennise le repas. Mais alors, le repas ensuite, donc quand on arrive, il faut évidemment lancer les invitations. Alors, c'est toujours un petit peu compliqué parce que comme on a beaucoup plus d'événements aujourd'hui qu'on en avait il y a ne serait-ce que 20 ou 30 ans, donc on est souvent plus directement sur l'objectif. Donc, on lance les invitations un peu tard, souvent 15 jours, 10 jours avant le repas. Ceci étant, quand on est invité à la présidence de la République, généralement,
c'est la priorité.
C'est la priorité, voilà. Même si on a un engagement préalable, on se décommande. Donc, bon, c'est un petit peu joker. Alors, ensuite, donc, on voit les réponses. Et les réponses, on les a jusqu'à la dernière minute. C'est-à-dire qu'un plan de table, surtout quand on a 250 personnes à placer, il vaut mieux le faire dans la journée de l'événement, parce qu'il peut toujours y avoir des gens qui se décommandent ou qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas venir et qui finalement se sont organisés en repoussant un voyage ou autre chose pour pouvoir venir. Donc, il vaut mieux le faire à la dernière minute. Et alors après, c'est un travail qui prend plusieurs heures. Nous ne faisons plus de table en nu maintenant, de nouveau, depuis 2012. À l'Élysée, on a une grande table d'honneur au bout de la salle des fêtes et puis des petites tables. Donc, on a tendance, évidemment, à faire des tables thématiques en mélangeant les étrangers et les personnalités françaises. Mais alors, une table plutôt, je dirais, militaire, une table plutôt culturelle ou littéraire, une table plutôt, plusieurs tables d'ailleurs, économiques, avec les chefs d'entreprise. Voilà. Et puis, on fait présider normalement une table par un membre du gouvernement. Donc, voilà. Et puis, alors après, il y a une part d'aléas. Je dis toujours qu'un bon plan de table de 250 personnes, plus il y a de gens qui le regardent et qui disent « Oh, mais un tel, il ne faut absolument pas le mettre à côté d'un tel parce qu'ils ne s'entendent pas du tout. » Alors, ils sont rivaux. Voilà. Plus on regarde un plan de table, moins on a de risques de se tromper. Voilà. La pire des choses, c'est évidemment les trous. Ça, c'est-à-dire surtout à la table d'honneur, et ça peut toujours arriver. On peut toujours avoir des personnes qui, bien qu'elles aient dit et redit encore la veille qu'elles venaient, leur secrétariat ont confirmé leur présence et elles n'apparaissent pas. Ça, c'est quand même, je dirais, la pire des impolitesses.
Et il peut donc y avoir des chaises vides le soir de la réception.
Alors oui, il peut tout à fait y avoir des chaises vides. Et à ce moment-là, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on fait monter quelques personnalités qu'on n'avait pas placées aussi bien, mais qui peuvent aller... Et puis, on finit par les connaître. C'est-à-dire, on sait ceux qui savent animer une table, qui ont de la conversation, qui parlent les langues étrangères. Donc, ceux-là, c'est des agents ressources, comme on dit. Des invités ressources.
Invités ressources. Oui, parce qu'on le voit en feuilletant le livre, en fait, on a l'impression que tout s'est un petit peu... complexifié. Vous lisez tout à l'heure, à la base, ce repas d'État, cette rencontre, voilà, ce sont deux cours, deux nations qui vont se rencontrer. Aujourd'hui, on est plus à une époque de diplomatie un petit peu multilatérale, avec plusieurs chefs d'État qui se rejoignent. Donc, voilà, ça rajoute peut-être à la saveur, mais en tout cas aussi à la complexité de l'événement.
Mais vous le voyez apparaître quand même régulièrement, puisque vous commencez par le congrès de Vienne. Vous avez ensuite les expositions universelles, qui étaient au XIXe siècle une occasion de faire venir en France beaucoup de chefs d'État et de souverains étrangers. Et puis, vous avez évidemment les sommets, le congrès de la paix à Paris et à Versailles en 1919. Et on termine sur la COP21, qui est une réunion considérable de, comme je disais, 157 chefs d'État et de gouvernement.
Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ces repas? Parce que dans l'ouvrage, un des auteurs, Patrick Rambourg, reprend un extrait de la physiologie du goût de Brillat Savarin, qui écrivait déjà à l'époque que la table ou ses réceptions étaient un mode de gouvernement pendant lesquels, eh bien, l'avenir du peuple était décidé. Alors évidemment, on ne peut pas réduire une décision politique à une rencontre autour d'une table, mais ça veut quand même dire que la table est un endroit fédérateur où vont se nouer des alliances, vont se décider peut-être des paix, des guerres, ou est-ce que ça relève d'une sorte de fantasmagorie ?
Par définition, si on invite à déjeuner ou à dîner, c'est qu'on a quand même un minimum de relations de confiance. On peut chercher à se réconcilier, on peut chercher. Donc, c'est un petit peu, c'est l'aval d'une relation et d'une visite. Comme je dis, la visite, il y a aussi tout un tas d'éléments purement utilitaires, des visites de sites, des rencontres, des entretiens, etc. On règle un certain nombre de sujets, mais dans un cadre qui est déjà un cadre amical, parce que on est quand même très. Si vous prenez une visite, même comme la visite, par exemple, du président Kadhafi de Libye en 2008, c'était le souci de se réconcilier avec lui après des décennies de méfiance et de relations médiocres, de se réconcilier avec lui aussi pour des raisons économiques, parce que la Libye est un pays riche qui a du pétrole, du gaz naturel, qui en exporte, et donc nos grands groupes étaient heureux de pouvoir y être actifs. Donc c'est pour ça qu'on l'a invité. Et c'est pour ça, évidemment, que l'ayant invité, on l'a bien traité, y compris dans la partie un peu excentrique de ses demandes. Et puis, finalement, on a été déçus. C'est-à-dire que cette lune de miel a duré un an, et puis qu'au bout d'un an, on s'est rendu compte que ça y fonctionnait de manière toujours aussi paradoxale et erratique. Et ça nous a conduit donc à passer, si je peux dire, de l'affirmation d'une relation privilégiée avec une invitation en France à beaucoup de dureté vis-à-vis de lui et de son régime.
Et alors, ces relations sont-elles uniquement travaillées à travers des repas, des réceptions publiques, ou y a-t-il aussi des moments plus, des repas plus privés où les chefs d'État se rencontrent et font un petit peu le point sur évidemment ce qui peut se passer?
Alors, on a un programme de visite officielle bilatérale, c'est-à-dire quand on accueille un chef d'État ou quand
le chef de l'État ou le chef du gouvernement part à l'étranger. C'est un programme qui se répartit généralement sur 2 jours à peu près. Il y a une nuit ou 2 maximum. Ça a tendance à se réduire. On veut faire beaucoup de choses. Et dans ce programme, vous avez donc, comme je vous l'ai dit, des visites de sites, des occasions de discours, peut-être trop. Moi, j'ai toujours trouvé, étant organisateur de déplacements, qu'on faisait trop parler nos hautes autorités. Quand vous allez jusqu'à faire 6 discours par jour, vous finissez par avoir une parole banalisée et qui n'imprime plus, qui n'est plus relevée. Tout ça se fait évidemment sous le regard de la presse, qui est très présente. Il y a la presse présidentielle qui suit, dont il faut organiser le déplacement ou le décalque, en quelque sorte, du déplacement officiel. Et vous avez là, il y a toujours un temps culturel, un temps éducatif ou de rayonnement, plusieurs temps économiques, une table ronde avec des chefs d'entreprise, une conférence de presse, un déjeuner ou deux, et puis des entretiens proprement politiques, quelquefois d'ailleurs en tête-à-tête, c'est-à-dire avec seulement les interprètes et sans collaborateurs.
Oui, est-ce que c'est un petit peu ce qui est évoqué dans l'ouvrage lorsque on raconte que Jacques Chirac avait tendance à rencontrer Gerhard Schröder dans un petit restaurant alsacien avant les rencontres officielles qui pouvaient être un petit peu houleuses et que cette rencontre privée était souvent un petit peu plus amicale que le repas ou la rencontre.
Alors là, ce genre de repas qui d'ailleurs se fait alors avec les plus proches des partenaires politiques, ça a plusieurs raisons d'être. D'abord, ça permet de prévoir un tout petit comité, c'est-à-dire qu'on n'est pas encombré de trop de collaborateurs ou de chefs d'entreprise. Ça permet d'aller vraiment à l'essentiel des messages politiques qu'on a à se dire le moment donné. Deuxièmement, ça permet de mettre en valeur un chef, un restaurant, une table, surtout dans les régions. Ça permet de la faire connaître, ça permet de la faire rayonner. Donc c'est important. Et puis troisièmement, dans leur vie, qui est quand même une vie extraordinairement austère et très consacrée à la tâche publique, parce qu'une vie de chef d'État ou de gouvernement aujourd'hui, ce n'est pas du tout une vie de souverain. Il y a encore évidemment quelques souverains, mais même eux sont obligés d'être très gardés et de faire attention à ce qu'ils font et à ce qu'ils disent. Donc dans cette vie très contrainte, c'est pas désagréable de découvrir, grâce à l'autre, grâce au partenaire, un restaurant sympathique avec un repas particulièrement soigné.
Et alors, je rebondis, vous parliez des chefs. Alors, plusieurs sont présents dans ce livre et c'est ça qui est assez savoureux, puisqu'on a le récit de l'événement, le menu, les images, donc la contextualisation, et ensuite le regard d'un chef sur le repas qui est évoqué, et puis une recette en réinterprétation. Alors, dans le cadre d'un dîner officiel, donc comment sont choisis les chefs qui interviennent ?
Alors, un dîner à l'Élysée. Enfin, à l'Élysée, vous avez un chef de cuisine. Vous avez eu longtemps Bernard Vaussion. Maintenant, c'est Monsieur Gomez. Au Quai d'Orsay, vous avez Thierry Charrier. Donc, vous avez, si je peux dire, un chef attitré qui est là pour plusieurs années ou plusieurs décennies et qui anime et qui connaît bien sa cuisine, ses ressources, ses contraintes, ses points forts. Quand je parle de sa cuisine, c'est le lieu. Parce que c'est sur eux que repose l'essentiel. Hein. Il faut pas rater une sauce. Et il faut servir, dans certains cas, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes, de manière égale. Donc, c'est un métier difficile. Alors, il nous arrive de faire appel, en dehors de chez eux, à des chefs étoilés qui tiennent des restaurants en ville. Ça a été le cas, par exemple, pour la COP21. C'était d'autant plus évident et facile que cette COP21, cette réunion des parties à la Convention climat, de l'année dernière, la 21e conférence des partis, elle se tenait au Bourget, c'est-à-dire qu'elle se tenait dans un lieu où tout était à construire. Il y a le Paris Air Show, le salon de l'aéronautique. C'est un lieu c'est plus une foire qu'un lieu officiel. Donc ça veut dire que tout est à monter, y compris les cuisines, les lieux de là où on réchauffe les plats, etc. Donc ça, c'était plus facile de faire appel à des chefs extérieurs, et puis en plus la volonté toujours de les mettre en valeur, c'est plus facile de faire appel à des chefs extérieurs que dans des circonstances comme celle-là, que lorsque l'on est à l'Élysée, où là il y a une cuisine en sous-sol, avec ses contraintes physiques et ses contraintes techniques, qui c'est comme un instrument de musique, il faut bien le connaître pour pouvoir en jouer. Et donc là, c'est le chef. Alors le chef, en fonction des informations collectées par le protocole sur les goûts et sur les interdits alimentaires qui peuvent être médicaux ou qui peuvent être pour des raisons religieuses, il propose un ou deux ensembles de plats. Et généralement, c'est le président de la République lui-même ou le ministre des Affaires étrangères ou le premier ministre lui-même qui choisit. Ça, c'est vraiment le chef fait des propositions quelques jours à l'avance, les propose par l'intermédiaire du secrétariat particulier et ça lui revient.
Oui, c'est-à-dire que le chef est en lien direct avec le chef d'État. Et ce dont j'avais pu aussi discuter avec Bernard Vaution, qui est venu voir l'exposition, et qui me disait effectivement qu'il fallait s'adapter à chaque changement de président. Et on le voit à travers le livre et à travers les menus aussi que nous avons dans l'exposition, où, par exemple, sous la présidence du général de Gaulle, on était sur une quarantaine de minutes de repas, ce qui est quand même assez court. Alors, on ne mange plus de fromage. Voilà, c'est 40 minutes, ça paraît extrêmement, extrêmement court pour un repas, pour toute l'organisation aussi que cela sous-entend.
40 minutes, ça me paraît quand même très peu, parce que même le président Sarkozy, qui pourtant mangeait vite, c'était quand même plus d'une heure. Hein. 40 minutes, ce n'est pas des repas genre dîner d'État ou dîner officiel, parce que ne serait-ce que le service, mais là, on est plutôt sur 180 minutes. Pardon, pas 180, n'exagérons pas. 90 minutes, une heure et demie, on est plutôt sur une heure et demi, 1h40. 40 minutes, c'était quand même assez exceptionnel. Hein. Mais alors, c'est vrai que sous le général de Gaulle, on ne servait pas de fromage, alors qu'on en sert de nouveau depuis 2012 à la table présidentielle.
Alors, le record, c'est Napoléon Ier, hein, je crois. J'ai lu dans l'ouvrage 20 minutes de repas, que ce soit dans les dîners privés ou les dîners officiels.
Et oui, c'est un petit peu regrettable, mais les personnalités dont on décrit les repas, ce ne sont pas, comme je le dis d'ailleurs dans la préface, ce ne sont pas des repas de famille, ce ne sont pas des repas où l'on traîne en quelque sorte, ce sont des repas, c'est vraiment des repas de travail, ça peut être des repas avec une dimension sociale, mais ce sont des repas avec une utilité. Public. Et voilà. Donc, mais enfin, quand même, je veux dire que certains chefs d'État ont l'habitude de traîner un petit peu à table.
Et alors, parmi les repas qui sont évoqués dans le livre, est-ce qu'il y en a un plus précisément qui attire votre attention, qui est lié peut-être à un souvenir aussi de votre exercice? Enfin, est-ce qu'il y en a un qui sort du lot pour vous?
L'événement que j'aime le mieux parce qu'il est exotique, c'est l'inauguration du canal de Suez. Voilà, le repas qui a été offert à Ismaïlia le 18 novembre 1869, parce que ça fait rêver, ces grands canaux, c'était le fruit de projets qui remontaient à 40 ans en arrière et qui se sont concrétisés grâce à des grands Français, grâce à des capitaux français, c'était une prouesse. Et j'en garde d'autant plus, je dirais, une sorte de souvenir, que j'ai donc vécu là l'inauguration du canal de Suez de 2015. Donc j'ai pu rapprocher en quelque sorte la façon dont on inaugurait l'ancien canal de Suez et le nouveau canal de Suez par l'histoire et par les livres, par les souvenirs de l'impératrice Eugénie, et puis par ce que j'ai vu monter, choisi par le président d'Égypte, Al-Sisi.
Et oui, parce qu'il y a effectivement les réceptions qui ont lieu in situ, lorsque, par exemple, le président de la République accueille un chef d'État étranger, mais lors des déplacements aussi, on continue à maintenir le niveau d'excellence de ces réceptions. Alors, les cuisiniers suivent. Enfin, comment ça se passe quand on organise une réception à l'extérieur, si je puis dire ?
Alors, à l'extérieur, si vous avez d'abord décrit, ce sont pour l'essentiel des repas qui ont eu lieu en France. Mais enfin, vous avez quand même quelques repas qui ont eu lieu à l'étranger. Et là, vous avez soit tout un service de cuisine, soit l'intendance qui fait reposer le repas sur le chef de l'ambassade ou sur un chef local, mais qui en quelque sorte l'oriente et l'assiste. Voilà. Par souci d'économie, aujourd'hui, on ne transporte plus aussi volontiers toute la vaisselle, tous les cristaux que l'on transportait. On peut le faire exceptionnellement quand on veut, de manière un peu ostentatoire, montrer qu'on attache beaucoup d'importance au pays, mais c'est quand même assez exceptionnel. Parce qu'il faut bien voir que, comme je dis, nous avons en France à peu près 750 chefs d'État et de gouvernement qui viennent chaque année. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui font des escales techniques, qui font des visites de travail, qui viennent sans rester très longtemps. Donc, je veux dire, la noria des chefs d'État étrangers ou chefs de gouvernement qui viennent en France, elle est beaucoup plus rapide qu'avant. Et tous n'ont pas ce haut de gamme, en quelque sorte, qui est décrit ici dans l'histoire et même dans la période contemporaine.
Et à travers ces différentes réceptions et leurs menus, qui sont finalement le premier témoignage, la première archive que l'on conserve de ces événements, on se rend compte que la plupart, alors évidemment en France on décrit en français, mais à l'étranger également, et finalement ce livre illustre aussi le fait que la France rayonne en Europe, dans le monde, à travers sa gastronomie.
Ah, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Comme je le disais, on est classé au patrimoine mondial de l'humanité. Et la gastronomie à la française est classée au patrimoine mondial de l'humanité. C'est pas la seule gastronomie classée. On en avait d'autres, peu nombreuses d'ailleurs. Vous avez la chinoise, vous avez l'italienne, vous avez la japonaise. On cherche à promouvoir cet art de vivre à la française, du repas, déjeuner ou dîner, qui clôt un cycle plus professionnel, plus utilitaire. Voilà. Donc on est vraiment là dans une spécificité française qui est quelquefois copiée par des grands partenaires, surtout européens, mais finalement pas tant que ça quand même. Les repas à l'étranger sont, alors là, pour le coup, rapidement emballés.
Oui, donc c'est quand même quelque chose de, voilà, quand même une spécificité de notre pays.
Oui, oui.
Et vous évoquez justement cette spécificité, on l'exporte un petit peu à travers les voyages présidentiels. Vous évoquiez tout à l'heure le voyage du président François Mitterrand en Chine, avec donc le repas qu'il donne à l'ambassade de Pékin, donc qui est une sorte de dîner retour en fait, qu'on rend hommage à l'hôte qui nous reçoit. Et on va revenir sur le fromage un petit peu. Effectivement, le livre raconte qu'il sert du fromage. Et ce fromage, ces hôtes chinois sont un petit peu sceptiques, mais le fait est que tout le monde va quand même y mettre de la bonne volonté. Alors, est-ce qu'il y a un petit peu dans cette idée-là des anecdotes qui vous reviendraient sur parfois des chocs un petit peu de culture ou des histoires de ce genre ?
Les chocs de culture sont de moins en moins fréquents parce que nous sommes dans un monde globalisé où malheureusement on retrouve un peu tout partout. Et la même chose. Donc, alors, il y a quand même toujours, quand on va en Chine, il y a une spécificité de ce qu'on nous sert dans les repas officiels. De même qu'en France, on sert à la française, si je peux dire. On sert encore des repas en sauce. Enfin, bon. Donc, on est quand même assez dans l'originalité. Mais ça, c'est quand même légèrement laminé et il n'y a plus de surprise aujourd'hui. Je pense que il n'y a plus, surtout avec tous les sommets du G8, du G20, sommet de l'OTAN, de la francophonie, Afrique-France, etc. C'est un cycle permanent tout au long de l'année de rencontres. Voilà, donc tout le monde est habitué. Ça tend quand même un peu plus à ce qu'il va trouver. Il n'y a pas de choc, il n'y a pas de surprise. Il y a moins de surprises qu'avant. Voilà. C'est un petit peu dommage, mais on voyage tellement, les déplacements sont tellement fréquents que voilà, c'est pour ça qu'il faut se replonger dans le passé, se replonger dans quelques repas historiques intéressants, regarder les images pour revivre ce qui s'est passé il y a un siècle ou deux. Sachant qu'il y a une grande cassure dans le livre, qui est évidemment la Révolution française, parce que avant, on est dans une société de cour et dans des familles de souverains qui souvent ont des liens, se connaissent, etc. On cherche à se mettre en scène, mais auprès d'un tout petit nombre. Alors qu'aujourd'hui, déjà au XIXe siècle et encore plus au XXe siècle, vous avez le poids de la presse, c'est-à-dire que tout se sait, tout se voit, tout est retransmis. Et voilà, le repas, même ce qui se passe, là vous avez la couverture, c'est la visite de 1961 de Kennedy. Vous reconnaissez bien sûr le général de Gaulle et Jacqueline Kennedy. Le simple fait qu'on ait ces images, qu'on ait des films comme ceux que l'on peut voir, montre que là on est dans un système de représentation qui est destiné à toucher des personnes qui ne participent pas au dîner ou à la réception, qui est destiné à avoir un rayonnement beaucoup plus grand, alors que sous Louis XV, le repas de Choisy ou à l'île des Faisans sous Louis XIV, il fallait être présent pour participer. Donc c'est pas la même chose. On est dans une logique quand même un petit peu différente. On est dans une logique de spectacle, mais de spectacle où les acteurs étaient aussi les spectateurs, alors que maintenant, les acteurs ne sont pas les seuls spectateurs.
Et alors, tous ces repas qui sont évoqués dans le livre l'illustrent. Et alors, justement, comment ont-ils été choisis ? Alors, vous parliez à l'instant de la réception des Kennedy. On a presque envie de penser que c'était un petit peu un incontournable parce que, effectivement, ça fait partie des visites qui sont restées dans les mémoires. Mais comment a été faite la sélection ? Est-ce que certains auteurs ont choisi leur menu ? Enfin, comment s'est un petit peu travaillé le livre ?
Alors, tout à fait. Ça a été un travail interactif, si je peux dire. Donc, le projet, on rassemble un certain nombre d'auteurs. On s'appuie beaucoup sur la Commission des archives diplomatiques, qui est l'instance d'historiens qui aide, présidée par Hélène Carrère-Dancausse, qui aide la direction des archives du Quai d'Orsay. Donc, on sélectionne, certains acceptent de participer au projet, d'autres ont d'autres projets en cours et donc ne décident de ne pas y participer. Donc, on a une sélection. Alors, ensuite, entre nous, comité de lecture, on imagine un certain nombre de repas qui sont incontournables. Et puis, certains disent, ah bah tiens, si on faisait aussi quelque chose. Alors, moi, par exemple, j'ai proposé sur les menus de Versailles du roi Guillaume Ier et un menu du siège de Paris en 1870. Voilà. Donc, ça a été un travail. C'est pas une approche scientifique, c'est pas systématique. systématique. On a voulu faire un ouvrage grand public avec des historiens qui savent ce qu'ils écrivent et ce qu'ils montrent et des chefs de cuisine qui sont aussi des gens compétents. Mais ce n'est pas un ouvrage d'érudition. Ce n'est pas un ouvrage systématique. Ce n'est pas un traité de la gastronomie. Ce n'est pas l'ouvrage de Brillat-Savarin que vous mentionnez tout à l'heure, qui est un ouvrage qui se veut descriptif de tous les aspects, je dirais, du goût, qui est assez intéressant d'ailleurs en cela. Non, ça c'est plutôt c'est un témoignage. C'est un témoignage. J'étais particulièrement heureux de le diriger parce que on me l'a proposé à la fin de mon temps comme chef du protocole, d'en être le responsable en quelque sorte. Et j'avais déjà derrière moi toute l'expérience de 5 années de protocole. Donc ça m'intéressait un petit peu de réfléchir dans une approche historique à comment ça se passait un peu avant. Plus cette magnifique collection de menus qui attire l'œil et dont Bordeaux bénéficie pour quelques mois au Musée des Arts Décoratifs. Voilà, c'est là l'idée. Alors ensuite, bon, certains ont dit, bon, les expositions universelles, c'est incontournable. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors on a eu un petit peu de difficulté pour le 18e siècle, parce qu'on n'avait pas l'équivalent de ce qu'on voyait de spectaculaire sous le règne de Louis XIV. Parce que, évidemment, le 18e siècle, donc c'est pour ça qu'on a pris un mariage à la cour de Versailles. Alors, ce qui nous intéressait, c'était de travailler sur Versailles, justement. C'était comment se passait un repas officiel à Versailles à l'époque. Voilà, donc c'est ce qui donne cet ensemble.
Et est-ce qu'on peut imaginer que c'est le premier, premier ouvrage, alors sinon d'une série? Parce que c'est vrai qu'on a, comme vous le disiez, ça se lit avec plaisir, c'est-à-dire qu'on rentre dans une histoire, c'est par la petite histoire, on comprend la grande. Enfin, c'est aussi l'intérêt des arts de la table et de la gastronomie. C'est-à-dire que c'est un moment de la société, mais qui nous permet de mieux la comprendre. Les illustrations, que ce soit les menus, que ce soit les images qui contextualisent, permettent vraiment de rentrer dans l'atmosphère de ces réceptions. Et à la fin, même si le livre est assez épais, on reste sur notre faim dans le sens où on se dit on en veut encore.
Merci beaucoup. C'est un livre qui marche bien, donc ça incitera l'éditeur à reprendre ce sujet et l'approfondir. Voilà, donc là, il y a une unité quand même dans le livre. Pour ce qui me concerne, en plus, on termine avec la COP21, ce sommet qui a été compliqué à monter. Sur le fond, mais moi je n'avais pas la charge du fond, j'ai été dans une vie ancienne, il y a quelques années, ambassadeur pour les questions d'environnement, mais enfin, je ne l'étais plus quand j'étais l'un de ceux en charge de la préparation du sommet. Mais le sommet était donc très important. Voilà, pour moi, il y a un ensemble là, à peu près cohérent, il y a une histoire au fil du livre. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas effectivement reprendre ce thème différemment. Pour l'instant, on cherche à faire en sorte que tous ceux qui ont contribué au livre, à commencer par les chefs, parce que c'est plus facile de mobiliser les historiens ou les politiques, peut-être parce qu'ils ont plus l'habitude de parler en public. Les chefs, ils sont plutôt dans leur cuisine, enfin encore que ceux qui ont plusieurs macarons Michelin savent aussi quand même faire de la promotion et de l'autopromotion. Mais on a un petit peu plus de mal, voilà. On est obligé de un petit peu de les pousser pour présenter le livre.
Et donc cette histoire des repas va continuer de s'écrire. Et justement, par rapport à vos fonctions en tant qu'ancien chef du protocole, est-ce que vous avez essayé peut-être de vous projeter, de voir comment ces réceptions pourraient évoluer ? Parce qu'il y a quand même une certaine tradition quand même qui est maintenue, à la fois dans le, vous le disiez, la vaisselle, à la fois dans le déroulé du repas. Est-ce que vous pensez que cette tradition peut évoluer ? Est-ce qu'elle va suivre l'évolution de la gastronomie ? De la nouvelle cuisine, d'une nouvelle manière de servir.
C'est-à-dire là, c'est quand même une histoire centrée sur les repas officiels, dîner d'État, déjeuner d'État, avec beaucoup de monde. Vous avez toute une gamme de déjeuners de travail. On mentionnait les repas dans les restaurants, comme ça, en petit comité. Il y a ça, mais il y a aussi des repas de travail en plus petit comité à l'Élysée. Il y a aussi, enfin bon, je veux dire, il y a tout un dégradé ou toute une gamme d'activités. Ici, par souci d'unité, de 1520 à 2015, c'est des repas où il y a énormément de monde. Alors, ce type de repas, si je peux dire, il y a des contraintes qui font que on peut faire changer quand même un peu, mais au fond, c'est pas fondamentalement différent. Un dîner d'État sous François Hollande n'est pas fondamentalement différent d'un dîner d'État sous Émile Loubet ou sous Raymond Poincaré. Et puis, en plus, c'est ce à quoi s'attendent nos visiteurs étrangers. C'est-à-dire que je pense qu'on les décevrait si on faisait quelque chose de plus épuré, de plus simple, où il y ait moins de personnel, où il y ait moins de vaisselle, où il y ait moins de lumière, où il y ait moins de cristaux, de décoration de table. Ça fait partie du jeu, voilà. C'est-à-dire qu'ils auraient vite tendance à considérer que si on leur offre pas ça, c'est qu'on les traite moins bien que d'autres. Et donc, c'est très difficile de décrocher le... Mais il y a des petites innovations, bon, ben, ne serait-ce que dans la présentation, la table en nu. La table en nu avait disparu sous Valéry Giscard d'Estaing. Elle est revenue sous Jacques Chirac. Elle a de nouveau disparu sous François Hollande. La musique jouée par l'orchestre de la garde républicaine est intervenue à différents moments. Sous le général de Gaulle, c'était entre les morceaux, en quelque sorte, enfin, entre les plats. Ensuite, c'est devenu uniquement à l'accueil des personnalités, mais pas pendant le repas. Ensuite, ça a été, je dirais, de nouveau. Ensuite, il n'y en a plus du tout. Sous Nicolas Sarkozy, il n'y en avait pas du tout, parce qu'il considérait que c'était... ça faisait perdre du temps, et puis c'était ça faisait je veux dire, les personnes étaient là pour discuter entre elles, pour mieux se connaître. Et ça faisait un fond musical qui était désagréable pour les artistes, parce qu'on les écoutait qu'à moitié, et gênant pour les convives. Donc ça avait complètement disparu. Ça a été rétabli sous François Hollande, sous une forme qui était la forme ancienne, si je peux dire, c'est-à-dire quelques morceaux à l'arrivée des convives. Et puis ensuite, au moment des entre deux services, et sur la fin, au moment du café, vous avez eu aussi une pratique qu'a développée le président François Hollande, c'est après le plat principal et avant, ou après le fromage et avant le dessert, de se lever et de faire le tour des tables, sachant que jusqu'à Jacques Chirac inclus, il y avait une présentation individuelle de chaque invité qui faisait que quand vous avez 220 invités, ça prend facilement une heure. Hein, parce que même si ce n'est pas long, si c'est simplement dire le nom et un salut, ça prend quelques secondes et donc ça prend du temps. Ce qui n'était pas retenu du temps de Nicolas Sarkozy, pour gagner du temps sur la durée totale du repas. On ne présentait qu'une dizaine de personnes, vraiment le haut de la liste des personnalités. Ce qui a complètement disparu sous François Hollande. Mais
avec cette pratique un peu à la manière des banquets, si je peux dire, où à la fin du, comme dans les mariages, à la fin, les deux mariés font le tour des tables parce qu'ils sont installés à une table et ils n'ont pas pu voir tout le monde. C'était pas mal parce que, évidemment, ça désorganisait un peu le service, mais ça permettait à tous les participants au repas, même à des tables assez périphériques, au moins de saluer le président de la République et son invité étranger, avec en plus l'inconvénient que maintenant, vous avez de plus en plus de gens qui font des selfies. Même des chefs d'entreprise connus et importants, même des personnalités. Ben ça m'avait frappé lors du dîner d'État avec la reine d'Angleterre en 2014. Vous avez des personnes qui vous disent « ça ne vous dérange pas, Majesté ?» Et puis, pouf. Donc, voilà. On dit, non, écoutez.
Est-ce qu'ils photographient leur assiette aussi?
Ça, c'est très fréquent. Oui. D'habitude, on pensait que le menu, ça suffisait. Mais maintenant, non seulement on prend le menu, mais on photographie aussi les assiettes. Oui.
Et vous-même, vous avez des selfies avec des personnalités très connues?
Non. Non, je ne pouvais pas me permettre, doublement pas me permettre en tant que chef du protocole, parce que non seulement je trouve que c'est quand même un peu déplacé, il faut garder une certaine dignité à ces grands moments publics, mais en plus, étant l'un des organisateurs et pas l'un des invités, ça aurait été particulièrement malvenu.
Et peut-être pour finir, au sein de ces, enfin pendant ces grands repas, il y a un moment aussi qui est important. C'est le moment alors du toast ou le moment des santé.
Alors oui, donc le toast qui est d'ailleurs retransmis, c'est un discours bref avant le début du repas. Alors vous avez des pays où c'est à la fin du repas. Chez nous, c'est toujours au début du repas, comme ça ensuite on est soulagé, on peut boire un peu plus et manger assez agréablement. Alors le toast, par définition, alors on dit c'est entre 5 et 8 minutes. Malheureusement, certains chefs d'État, y compris les nôtres d'ailleurs, ne savent pas toujours et font un discours, à mon avis, beaucoup trop long. Quand on regarde ce que disait le général de Gaulle, dans les années 60, c'était généralement, ça durait vraiment 5 minutes. C'était vraiment, on lève son verre à la personnalité accueillie, à la relation bilatérale. On dit 2-3 phrases bien ciselées. Un accueil du roi Gustave VI de Suède, le général de Gaulle a dit « Je suis heureux ce soir d'accueillir ici la Suède, grand pays qui ne nous a jamais nui ». Alors ça, il faut le trouver, c'est une bonne formule, un grand pays qui ne nous a jamais nui. Alors que maintenant, on a tendance à confondre et à faire des discours de 20 minutes. Alors c'est d'autant plus ennuyeux qu'à l'Élysée, nous ne sommes pas en mesure d'avoir des écouteurs, et puis enfin, on peut en avoir... Si on organise une réunion de travail, ça, on met des cabines dans la salle des fêtes ou dans un des salons du rez-de-chaussée, il n'y a pas de difficulté. Mais là, pour un repas, c'est très compliqué d'avoir des écouteurs, un système. Et puis après, vous le mettez sur votre assiette. Donc il n'y a pas de traduction. Donc ça veut dire que soit on a le discours suffisamment à l'avance, on peut le faire reproduire et on en met une version traduite papier, dans le menu, justement. Soit on ne peut pas l'avoir à l'avance, et souvent nos chefs d'État, je dois dire que c'était le cas des deux que j'ai servis, aussi bien M. Sarkozy que M. Hollande, avaient l'habitude de changer à la dernière minute, de retravailler, de rajouter des choses, de supprimer. Et donc, on disait, on vous fournit un texte, mais on n'est pas du tout sûr que ce soit celui qui soit effectivement prononcé. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous êtes obligé d'avoir une traduction consécutive. Donc, si vous avez un discours de 15 minutes ou 20 minutes, eh bien, la traduction consécutive, même si les interprètes sont des gens habiles qui vont à l'essentiel et qui savent réduire en quelque sorte, eh bien, au bout d'une demi-heure, vous êtes toujours devant votre assiette vide en train de vous dire, oui, mais ça, il me semble que je l'ai déjà entendu lors du colloque devant les chefs d'entreprise il y a 2 heures, et puis s'il y a eu une intervention devant l'Assemblée nationale, vous êtes toujours un peu... Voilà, je le disais aux... Mais il y a une espèce de force d'inertie en pensant que
plus on en dit, plus on est long, mieux c'est. Ce qui n'est pas vrai.
Mieux aller à l'essentiel. Alors, ce livre nous permet donc de... comme si on espionnait un petit peu par le trou de la serrure pour voir comment se déroulaient ces festivités, ces réceptions. Voilà, je pense qu'on a tous l'eau à la bouche, en tout cas, et le public sera très empressé de découvrir ce récit et, je l'espère, de poser des questions qui pourraient compléter notre intervention.
Alors, je dirais, couplé à l'exposition, ça n'est pas pour faire de la publicité pour votre musée, que tout le monde connaît ici, mais c'est vrai que c'est original comme exposition, donc il n'y a pas l'équivalent à Paris, à Marseille, à Lyon, je veux dire, c'est ici qu'il y a cette exposition sur les menus mis en scène, et je dirais que voilà, et c'est un livre, en ce moment, particulièrement bordelais.
Exactement, oui, c'est vrai que ça se complète bien. Donc, je vous invite à lire le livre et à venir à l'exposition, du coup. Un grand merci d'avoir été parmi nous. Et puis, voilà, on souhaite une très bonne route à ce livre assez fantastique. Merci beaucoup, Laurent Stéphanini.
Eh ben, merci à vous.